La première chose qu'il faut dire, je crois, c'est qu'il y a eu des erreurs massives de politique économique au cours des 10 dernières années, globalement avec la grande crise financière qui a commencé avec la chute de Lehman Brothers. En Europe, il y a eu des erreurs graves de réponse à la crise. En particulier, il y a eu cet effort d'austérité qui était prématuré. Et puis, on peut citer aussi, par exemple, dans le cas français, l'erreur ou l'échec collectif dans la lutte contre le chômage qui remonte à beaucoup plus longtemps. Et ça, ça mine la confiance dans les dirigeants politiques, parce qu'au fond, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais d'abord, ce qu'on leur reproche, c'est de se tromper, c'est d'échouer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la question, c'est pourquoi est-ce que des gens qui sont pas nécessairement incompétents, pas nécessairement mal informés, pas nécessairement mal conseillés, pourquoi est-ce qu'ils se trompent? Pourquoi est-ce qu'ils font des erreurs? Et ça, c'est intéressant parce que on se rend compte qu'il y a des modèles, des types d'erreurs qui se reproduisent. Par exemple, le fait de prendre des paris et de perdre ses paris. Par exemple, le fait de ne pas bien maîtriser la complexité, c'est-à-dire de croire que des réformes, ce sont... Il y a toute une liste de choses à faire. On va prendre au hasard ou en fonction de la facilité politique des réformes, on va prendre ce qui convient le mieux dans une liste sans trop se préoccuper de leur complémentarité, du fait que si on prend quelques éléments, on n'aura pas nécessairement le bon résultat et même on pourra avoir des résultats particulièrement mauvais. Donc il y a des modèles d'erreurs de ce type. Et puis, il y a aussi toute la relation entre les décideurs, les dirigeants politiques et ce qui les environne, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire le Parlement, c'est-à-dire l'opinion. Et ça, c'est un facteur qui peut jouer très fortement. Par exemple, quand on se demande pourquoi les dirigeants américains ont laissé tomber la banque Lehman Brothers alors qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour essayer de la sauver, eh bien, à la fin, c'est une contrainte politique, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est qu'ils avaient essayé des solutions assez bricolées et qu'ils n'avaient simplement pas la capacité politique d'aller au Congrès et de dire « il faut mettre de l'argent public pour sauver cette banque parce que ça va être pire si on la laisse tomber ». Et c'est uniquement après la faillite de Lehman Brothers que, voyant le système financier américain au bord de l'effondrement, ils sont allés au Congrès, ils ont convaincu le Congrès que là, il fallait mettre de l'argent public pour éviter cet effondrement. Si on savait, je crois que d'abord, bien sûr, il y a les résultats, c'est-à-dire que les Français reprochent, comme d'autres, d'abord qu'il n'y a pas de résultats. Et une décennie sans, ou quasiment sans, croissance du revenu par tête, ça ne s'était pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça fait 70 ans. En fait, on vivait dans un monde de croissance dans lequel la situation s'améliorait, la situation moyenne s'améliorait d'année en année. Ce grand choc et cette grande difficulté à rebondir, inévitablement, ça suscite du mécontentement et des effets aussi, bien sûr, sur le chômage, sur la situation de l'emploi de manière générale. Donc la première chose, ce sont des résultats. Ensuite, je crois qu'il y a si on interroge les raisons pour lesquelles la société française est particulièrement pessimiste, particulièrement défiante, et ça se voit, si on fait comparaison simple avec l'Espagne. L'Espagne est dans une situation bien pire du point de vue de l'emploi, du niveau de chômage en tout cas. C'est un pays dans lequel le taux de pauvreté a atteint 20%. Il y a beaucoup de familles qui vivent sans aucune aide publique, ou sans aucune aide publique en tout cas qui dépend du travail, c'est-à-dire allocation chômage ou retraite. Et malgré tout, les Espagnols ont beaucoup moins peur de tomber dans la pauvreté que les Français. Donc il y a du côté français, et si on retrouve ça de manière assez systématique, il y a une tendance à peindre en noir ce qui est gris ou gris foncé, mais pas tout à fait noir, et on le peint encore plus noir. Et ça, je crois que c'est un problème de confiance collective dans nos institutions économiques et sociales, c'est-à-dire dans ce qui organise la vie en commun, dans les règles du jeu, dans le caractère équitable de ces règles du jeu, dans le fait que ces règles du jeu permettent à chacun de tirer le meilleur de ses capacités. C'est sans doute tout cela qui contribue à faire que les Français se méfient les uns des autres, se méfient de leurs dirigeants, se méfient de leurs institutions. Et donc ça contribue à ce pessimisme collectif. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est très important de travailler à restaurer des règles qui donnent confiance, c'est-à-dire des règles qui sont le plus uniformes possible, le plus égales possible, de manière à faire que chacun ne se sent pas, comme, d'une certaine manière, extérieur à sa propre société, comme plus maltraité que ses voisins. Aujourd'hui, beaucoup de Français se sentent maltraités, paradoxalement, alors que certains, évidemment, sont dans une meilleure situation que d'autres. Le Brexit, c'est un choc. C'est un choc double. C'est-à-dire, c'est un choc d'abord sur le fait qu'un pays choisit de partir. Et donc là, il y a un effet politique qui touche tous les pays. Et la question qu'on se pose inévitablement, c'est est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? Même si les Britanniques ont une histoire de leur relation avec l'Europe qui est très singulière, néanmoins, ils ont fait choix. Est-ce que c'est le signe d'une dissolution plus large, plus générale des liens entre les pays européens ? Et puis, il y a une autre question qui est comment gérer les relations avec les Britanniques demain, parce que c'est quand même un pays très important. C'est le centre financier de l'Europe. C'est une économie importante par son poids, par son dynamisme, par sa force dans un certain nombre de secteurs. Donc, comment construire des relations nouvelles entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ? Alors, sur le premier point, ça renvoie aux difficultés actuelles de l'Europe et donc ça invite à les prendre tout à fait au sérieux et à ne pas simplement passer des mauvais compromis, renvoyer des choses au lendemain. Ça demande du courage de la part des dirigeants européens pour affronter cette situation. Pour l'instant, ils ont décidé qu'ils allaient plutôt se consacrer aux questions de sécurité, de relations avec l'environnement, pas tellement aux questions de la gestion de la zone euro, et donc que c'est ça qui allait être leur priorité. Ce qui est compréhensible, mais ce qui est insuffisant, hein, puisqu'il va falloir aussi traiter les questions de la zone euro. Sur la question des relations avec les Britanniques, aujourd'hui, les Européens ont une position très tactique consistant à dire c'est eux qui ont demandé à sortir, c'est à eux de définir ce qu'ils veulent, et on verra ce qu'on leur répondra. Ce qui se comprend très bien d'un point de vue tactique, mais ce qui n'empêche pas de réfléchir à la manière dont on veut gérer cette relation, dont les 27 veulent gérer cette relation avec le Royaume-Uni. Et là-dessus, il y a deux impératifs, deux objectifs un peu contradictoires. L'un, c'est de faire payer aux Britanniques leur sortie, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans une position plus favorable, d'une certaine manière, à l'extérieur qu'ils n'étaient à l'intérieur. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, ils ne puissent pas conserver le bénéfice de l'accès au marché intérieur européen sans contribuer au budget. Hein. Alors que les autres contribuent au budget, les autres doivent appliquer les règles communes et c'est la contrepartie du fait qu'ils ont accès au marché. Donc il va y avoir une négociation difficile là-dessus. Et puis l'autre objectif, c'est d'éviter de détruire des liens économiques avec le Royaume-Uni. Et donc notre intérêt aussi, nous les 27, c'est de maintenir des liens avec le Royaume-Uni, de maintenir des liens économiques étroits. Et donc là, il y a un peu un conflit entre ces deux objectifs. Et toute la question, ça va être de savoir comment on va les concilier. Il y a des possibilités de créer un partenariat, par exemple, étendu, avec non seulement avec les Britanniques, mais avec d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, profiter de cette crise pour essayer de reconstruire une architecture européenne qui fasse place à des pays comme l'Ukraine, peut-être un jour à la Turquie, si elle revient à le meilleur sentiment, peut-être à des pays méditerranéens, pour créer un partenariat étendu. Ça demande pas mal d'audace.